On sent que je vous vois plus. C'est un peu la situation qu'il y avait au moment de... Au moment où Jean-Baptiste prêche dans le désert, il y a une situation qui n'est pas claire. On est en occupation romaine depuis 90 ans. Hérode est absolument détesté. Alors, détester celui qui gouverne, c'est un peu une habitude. Mais enfin, lui, c'est un criminel de haut vol. Vous me direz, il y en a aussi chez nous, des criminels de haut vol. Mais enfin, voilà. L'autorité est détestée, il n'y a plus de gouvernement. Il y a des collaborateurs partout, enfin des collabos au sens de cette définition de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y en a qui vendent leurs frères à Hérode et aux Romains. Il y a un mélange entre les deux. Le temple ne marche pratiquement plus. Les gens font plus confiance aux prêtres. Parce que les prêtres eux-mêmes sont devenus des collaborateurs. Les prêtres touchent beaucoup d'argent sur le changement des bêtes et de la monnaie au temple. La situation est donc pas terrible. Vous voyez ? Quand on est juif à Jérusalem, on peut se dire « Mon Dieu, où on va ?» Je dis ça parce que parfois, on entend le même son chez nous. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la même situation politique ou économique, mais il y a des choses quand même qui, de génération en génération, se reproduisent quand même pas mal. Toujours est-il que Jean-Baptiste, lui, fils de prêtre, donc prêtre, souvenez, hein, Zacharie, c'est Zacharie qui a une apparition dans le temple, donc Jean-Baptiste est prêtre, et bien étonnamment, il ne reste pas au temple, il va dans le désert. Et dans le désert, alors attention, le désert de là où il va, c'est un désert qui est un peu peuplé quand même. Il y a des nomades autour de lui. N'imaginez pas le grand désert... Mauritanien ou des trucs comme ça, vous voyez, c'est un désert, mais il y a des gens autour de lui et l'écriture dit tout Jérusalem allait vers lui parce que Jérusalem espère et toute la région, il devait y avoir des centaines de personnes dans ce coin-là du désert autour du Jourdain qui se rassemblaient. Ils étaient dans l'espérance, ils cherchaient l'espérance un peu, c'est ce qu'on en a un peu entendu dans la seconde lecture. Ils viennent voir Jean-Baptiste, et qu'est-ce qui leur arrive quand ils viennent voir Jean-Baptiste? Eh bien, les plus humbles repartent avec une couche de miel sur la langue, c'est-à-dire qu'ils sont fortifiés par Jean-Baptiste, ils sont apaisés par Jean-Baptiste, ils reconnaissent paisiblement leurs péchés, ils reçoivent l'onction de l'eau. Hein, c'est pas le même baptême que le nôtre, rien à voir, hein, l'Écriture le précise, je vous dirai un mot tout à l'heure. Mais les plus durs, les plus orgueilleux sont là aussi. C'est ça qui est intéressant. Les plus durs, les plus orgueilleux, ceux qui se réclament d'Abraham. Nous avons Abraham pour père. Sous-entendu, c'est nous qui avons raison. Il va y avoir une confrontation, plusieurs confrontations d'ailleurs avec Jésus, avec ces personnes que Jésus aime beaucoup, parce que ce sont des gens qui cherchent à être fidèles à la loi. Et ils font partie de ces familles politico-religieuses qui font le maximum pour plaire à Dieu, vous voyez. Qu'est-ce que Jean-Baptiste leur dit? Engeance de vipère. Vous cherchez l'espérance, vous vous déplacez, vous allez dans le désert, c'est pas marrant d'aller dans le désert, et là, vous vous faites quasiment insulter par un gars en poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, qui sûrement sent mauvais. Bon, il y a plein de monde autour de vous, alors ça peut le faire un peu, mais... Engeance de vipère. Ce que Jean-Baptiste fustige, c'est toutes les formes de sclérose religieuse dans lesquelles on est. Je ne vais pas insister là-dessus, mais il faut quand même avoir ça dans l'esprit. Je fais partie de Notre-Dame des Victoires, alors je suis sauvé. Je fais partie des chrétiens de Paris, alors je suis sauvé. J'aime le pape et je suis allé faire un jubilé à Rome, alors je suis sauvé. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Nous sommes baptisés dans ma famille de père en fils jusqu'à la 15e génération, alors vous comprenez mon père. Vous voyez, c'est un peu ce contexte. Une espèce de... Le mot m'échappe à l'instant, mais une espèce d'habitude sclérosée de vivre sa religion. Et le Seigneur est dur. Jean-Baptiste est dur parce que il faut l'être. Parce qu'il y a une vérité qui n'est pas molle. Et cette vérité, c'est qu'il y a en nous à la fois du très bon qui sera sauvé. Tous les actes bons que nous faisons viennent de Dieu et permettra notre salut. Et puis en nous, des choses qui sont à brûler, qui sont de l'ordre du péché. Des choses qu'on veut essayer de convertir, mais aussi des choses dont on est bien content de ne pas trop convertir, parce qu'on aime bien ça. Vous voyez ? Des petites habitudes comme ça, qu'on s'est gardé sous le coude, qu'on peut se garder sous le coude, volontairement ou involontairement, mais qui quelque part corrompent quand même ce qu'on est. Et Jean-Baptiste met le doigt là-dessus et dit, mais convertissez-vous parce que le royaume de Dieu est là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si tu veux profiter de la présence de Jésus ressuscité qui est là, dans ta vie, eh bien, ça, il faut que ça change. Il faut que tu changes cette mauvaise habitude. Il faut que tu prennes la décision pour ça. Très bien. Mais on fait comment ? On va à Notre-Dame des Victoires, soit. On discute avec les sœurs, très bien. Mais on fait comment pour éradiquer ce truc qu'on n'arrive pas à bouger ? Il faut relire la première lecture. Revenez à la première lecture, parce que dans la première lecture, le Seigneur nous montre tout ce qu'il nous donne pour pouvoir nous sauver. Et notamment, il nous donne les dons du Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit en nous depuis notre baptême. Alors nous avons été baptisés, nous, dans l'Esprit, ce qui fait que nous avons en nous la présence trinitaire de Dieu. Et cette présence trinitaire en chacun d'entre nous est en train de nous sauver, est en train d'agir, vous voyez, comme une sorte de pile atomique qui est à l'intérieur de nous. Mais plus évidemment nous poserons des actes de foi, plus cette puissance qui est à l'intérieur de nous va réagir, et en réagissant va brûler ce qui doit être brûlé et qui est en nous et qu'on aimerait bien rejeter. Alors le Seigneur précise et dit « Je vais t'envoyer l'Esprit Saint, je vais te donner l'Esprit Saint pour aller jusqu'à Noël et pour que ta marche soit plus belle, plus grande et pour que ton rêve d'expulser le péché de ton cœur soit accompli. Je vais te donner l'Esprit Saint. » Voilà. Condition que tu le veuilles, bien sûr. À travers des dons, ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. C'est une action de l'Esprit sur nous. Là, dans cette page d'écriture, on en voit 5. La sagesse. Parfois, ce qui nous manque, c'est une vue générale des choses. Parfois, bien souvent, on pêche parce qu'on ne voit, on n'a qu'une vision étroite des gens. Pensez à Noël que vous avez déjà un petit peu organisé. Et pensez à tant de gudule que vous n'aimez pas trop et qu'il va falloir quand même vivre avec pendant 2 jours. On fait comment ? Ben, on élargit le prisme. Elle n'est peut-être pas que ce que j'ai perçu d'elle. Il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose qui explique son comportement, son attitude. Et puis finalement, elle a peut-être besoin de moi. Elle a peut-être besoin que je l'aide, que je mette un peu d'humour, un peu de distance, vous voyez. Soyons sages. Élargissons notre perspective. Je vous assure, ça fait un bien fou à l'âme. Ça rend plus joyeux Et surtout, moi, j'ai découvert une chose, plus je prie pour demander la sagesse, plus j'ai découvert une chose, c'est que ça aide à résoudre un nombre de problèmes absolument colossal. Parce que bien souvent, quand il y a un problème qui arrive à gauche, la solution, elle vient de droite. Mais si vous avez un grand prisme comme ça, et que c'est donné par Dieu, souvent vous trouvez les solutions très très vite. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou d'être sage. La sagesse. Demandez la sagesse. Conseil. Le don du conseil. Ça, c'est pour aller aussi jusqu'à Noël. Qu'est-ce que c'est le don du conseil ? Le don du conseil, c'est un don que reçoivent les personnes. Vous savez, ce sont des gens qui ont toujours, ils savent toujours ce qu'il faut faire au bon moment. C'est même légèrement énervant. Un peu comme des super guides. Ils savent toujours ce qu'il faut faire au bon moment. C'est l'intelligence pratique, raisonnable, qu'on va mettre en œuvre, qui va nous faire poser des actes concrets et qui vont nous rendre heureux. Ça, c'est le don du conseil. Attention avec ce don-là, si vous l'avez, vous le savez, parce que vous résolvez beaucoup de choses concrètes, pratiques, mais vous pouvez être très facilement très saoulant. Parce que on n'aime pas forcément recevoir de conseils. On préfère, dans ces cas-là, qu'on nous pose des questions. Est-ce que tu ne crois pas que la meilleure solution serait de... Gentiment, humblement, vous voyez, en position basse. Attention avec ce don-là, il peut aussi blesser. Troisième don, le don de force. Alors le don de force, ceux qui connaissent ce don-là, ce sont ceux qui vivent avec le Christ, qui sont très unis au Christ et qui ont reçu ce don, qui reçoivent ce don parce qu'ils sont régulièrement en but à des contradicteurs. Régulièrement. À des gens qui manipulent, à des gens qui mentent, à des gens qui donnent des coups dans le dos. Régulièrement. Le don de force, il sert à tracer la route. Il sert à ne pas s'arrêter quand on vous cogne dessus. Il sert à ne pas s'arrêter quand on essaye de vous blesser. Bien sûr, on vous blesse. Vous êtes du Christ, on vous blesse. C'est obligatoire. Parce que vous dites, parce que vous faites des choses que les gens ne veulent pas voir faire ou ne veulent pas faire. Donc, ils blessent. Les saints sont les personnes les plus blessées au monde par les gens. On les critique. On veut arrêter leur marche. Alors, ils reçoivent le don de force, cette espèce de don qui fait que, quoi qu'il arrive, ils continuent, vous voyez. Continue. Tête haute, on continue. On marche. On tient le Seigneur, on est tenu par le Seigneur, et on continue. On maintient. Je ne sais pas où j'ai attrapé ça. Maintenir. Ça, c'est ceux qui ont le don de force. C'est ceux qui veulent maintenir la position. Maintenir le cap. Capital. Quatrième don de l'Esprit Saint qu'il vous donne pour aller jusqu'à Noël, qu'il veut vous donner en tous les cas, c'est la piété. Alors attention, la piété, c'est pas... se mettre à genoux avec son chapelet, la tête à 10 degrés, et puis dire son chapelet, ben ça c'est bien, c'est déjà bien. Non, non, la piété dont je parle, c'est une relation avec le Seigneur de louange, de libre louange. La piété, c'est celui qui ne peut rien faire sans s'adresser à Dieu, qui écoute Dieu, et qui dit des choses à Dieu. Ben, c'est pas celui qui a des habitudes, vous voyez, c'est pas uniquement quelqu'un qui a pris des habitudes et qui est fidèle à ses habitudes. C'est beaucoup plus que ça. Celui qui est pieux, c'est celui qui ne fait rien sans Dieu, on va en parler, parce qu'il a la crainte aussi. Mais c'est celui qui cause avec Dieu, comme dit le curé d'Ars. Un jour, le curé d'Ars rentre dans son église. Il y a un paysan qui est là. On imagine, assis, les deux mains sur le banc d'en face. C'est tout petit, les bancs sont ridiculement petits. Moi, je l'imagine bien, le paysan, comme ça. Le menton, vous savez, sur le banc. Alors, à ce moment-là, le curé d'Ars arrive et lui dit, « Père Chafanjon, qu'est-ce que vous faites ?»« Bah, je suis dans une église, je suis devant le tabernacle. » Drôle de question du curé d'Ars, mais en fait, intéressant quand même. Donc le Kiradar se pose la question au père Chaffanjon, et le père Chaffanjon lui répond une réponse un peu énigmatique et qu'on n'a pas toujours très bien compris. « Je l'avieuse, et il m'avieuse. En patois des dombes, avieuser, c'est soupeser une terre pour voir combien on va en tirer. » C'est pas « je l'aveuse hein, », ça c'est le truc un petit peu... Non. C'est « je l'avieuse ». Je vois ce que je vais pouvoir soutirer de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une relation profonde, il y a une relation virile, il y a une relation vraie. Ça, c'est la piété. Voilà la piété. Et dernier don que le Seigneur veut vous faire dans cette marche vers Noël, c'est la crainte de Dieu. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit « Moi, si je me marie, je veux qu'une seule chose pour mon mari, je veux qu'une seule chose, c'est que mon mari craigne Dieu. » J'ai trouvé ça très très beau. Vraiment, je trouve ça très très beau. Craindre Dieu, qu'est-ce que c'est ? Craindre Dieu, c'est avoir peur de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est un don qu'il faut demander. Sans cesse vouloir faire la volonté de Dieu et n'avoir qu'une crainte, pas la crainte de mourir, pas la crainte de pécher, mais la crainte de ne pas faire la volonté de Dieu. Je vous conseille de vous demander au Seigneur ce don-là. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider encore et encore dans ce chemin de conversion. Jean-Baptiste nous y invite aussi. Et pour cela, demandons à l'Esprit Saint les dons de sagesse, de conseil, de force, de piété et de crainte de Dieu. Amen.